podcast.com. Essaye ça.
Je veux pas connaître. Moi, je pense qu'en 2022, là, pour commencer le show là-dessus, là, la chose la plus conne que j'ai découvert qui va me fabulasse y analyser pendant tout le reste de ma vie, c'est que les fans de QAnon ils ont dit que Q, il y avait des posts qui étaient Delta. Ça veut dire que l'année est pas correcte. Fait que toutes les prédictions peuvent arriver vraies. Mettons en 2032, en 2040, l'année est pas vraie. Fait que c'est ils appellent ça des pauses Delta. Mais vous reconnaissez ma voix et mon intérêt, hein, c'est Tommy Godette du très populaire et très québécois podcast sur Magic the Gathering, terrain basique. Je suis accompagné de mon non-ours, si vous nous regardez sur YouTube. Si vous nous entendez par les oreilles, ben imaginez mon ours. Sinon, ben il y a deux autres charmants bears avec nous autres. Il y a Jason Keys, le sphinx du Sachoir MTG. Comment ça va, man?
Ça va très bien. Vous aurez reconnu en arrière-fond la soundtrack de Mega Man 2 parce que je viens de passer à travers avec mon fils. Là, on fait juste jouer à Mega Man 2 ces temps-ci. Fait que
ça un
je suis
bon
dans le beat. Dans le beat.
On commence avec Metal Man, puis après ça, t'es sur les Metal Blade d'un bout à l'autre. La meilleure arme de toutes les Mega Man.
Exactement. Ah. Exactement. Mais j'ai essayé de faire un petit peu différent cette fois-ci.
Là, ouh, commencer par Bubble Man. Puis
on a commencé par Iron Man, puis c'était bien tough.
Bon, ah. Ça va,
c'est
bon.
C'est... Moi, je sais, quand tu joues à Mega Man, tu utilises le Mega Buster tant que possible. Le restant, c'est des cheats.
Ah! Oh. Et ça, c'est
le gars de standard.
Jonathan Gauthier, ça va, Joe?
Ouais, ça va bien. Ça va relativement bien. Pas mal occupé de ce temps-ci. Merci. Ça faisait un bout que personne m'avait dit que j'étais un bear, mais je vais le prendre comme un compliment.
Ben oui, c'est sûr et certain. J'aime ça, les ours. Fait que, ben, c'est pas toi qui as choisi la trame sonore. Ça va couper rond là-dessus. On parle de quoi aujourd'hui, Jason?
Eh ben, on va en prendre en deuxième partie. Pour le gros du show, là, je veux continuer le lore que j'avais commencé la semaine passée. Parce que vous savez, hein, le prochain set, c'est All Be One. Ouais. Phyrexia. Fait que je veux faire la semaine passée, on a vu le plan de Mirodin.
Okay.
Et éventuellement, Mirodin se transforme en New Phyrexia. Fait que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un peu un résumé des trois sets sortis en 2010 et 2011. Okay. Ce qu'on appelle le bloc de Scars of Mirodin. Puis avant ça, j'aimerais faire un petit shootout. Vendredi passé, en pleine tempête de neige, je suis descendu à Montréal et je me suis pointé chez Tommy Godette pour jouer à Magic.
C'est vrai.
Je suis arrivé là, tout seul. Là, Nathan, il me dit, ben là, Jason, c'est une grosse tempête de neige. Les gens vont pas venir jouer à Magic. Là. Puis là, j'ai dit, Nathan, as-tu déjà vu Field of Dream avec Kevin Costner?
Hein? Oh.
Quand il construit son stade de baseball, il dit...
Ben oui, construis-le et ils viendront.
Fait que j'ai mis un post Facebook. Et les gens sont venus, on a fait un gros multiplayer, free-for-all, on était quatre. Ça arrêtait plus de sonner à la porte, là, c'était comme la magie de Noël. Jonathan Gauthier, qui est avec nous en ce moment, est venu aussi.
Oh.
On s'est fait un gros free-for-all jusqu'à minuit, là, puis on a eu vraiment du fun, c'était vraiment chouette. Fait que je voulais féliciter ceux qui ont bravé la tempête et qui sont venus jouer à Magic avec nous. Sinon, t'avais-tu
moi, j'étais à mon parti de staff, puis finalement, ça a duré pas mal plus longtemps que ce qu'on faisait d'habitude. Il y a plein de monde, ça faisait 3 ans, j'avais pas vu. On a resté plus tard que prévu. J'ai chanté Heaven de Bryan Adams en français. Bébé, t'es tout ce que je veux. Quand tu traînes ici dans mes bras. Puis j'ai fait aussi en anglais Aïe Aïe de Offenbach. Aïe, you're hurting me in c'est my animal heart. On a eu pas mal de plaisir. Fait que j'ai pas compris ce que t'as dit, Jason. Excuse-moi, je t'entends.
Je trouvais ça drôle.
Moi, j'étais allé à la piste en fin de semaine. Ils font les petits événements Commander une fois par mois. Puis c'est quand même charmant. La gang est quand même diversifiée.
Ah, ça, c'est organisé par Chose, là.
Oui, notre fan numéro un, Jean-François Provençal.
On le salue, il doit nous écouter en ce moment.
C'était
cool? Vous étiez combien?
J'ai pas compté, mais on va dire comme 2-3 tables, là, puis ça finit quand relativement tard. Moi, j'ai pas resté jusqu'à la fin, mais il y a beaucoup d'espace, c'est bien éclairé, puis en plus t'as une belle sélection, fait que si maintenant tu fais comme si seulement j'avais gagné avoir eu telle carte, ben, tu peux aller pimper ton deck on the spot. Fait que
quel level de commander en difficulté?
Je te dirais que c'est très très casual, là. Genre le monde va s'amener avec des pre-con, puis c'est sûr que comme moi j'ai Zur the Enchanter, puis j'ai toujours du plaisir à le sortir une fois de temps en temps, mais c'est vraiment fort. Pas ça que le monde veut, là. Tu sais, il y a quelqu'un d'autre qui avait un deck d'Urza, puis même chose, on le sort une fois de temps en temps, mais c'est vraiment pas ça le power level, là.
Bon. Fait que c'est pour les casual amis, on fait des long games.
Oh ouais.
Hey, Commander, c'est des long games, c'est sûr.
Non, mais Commander,
quand il y a un combo qui tue au troisième tour, puis que là, tu te bats contre l'autre, puis que, tu sais, on sait comment ça.
Alors, c'est pas mal cool, c'est pas mal cool. Fait que ça, c'est à l'Abyss, c'est les dimanches?
Samedi. Puis c'est pas moi qui, c'est Jean-François qui décide la date, mais c'est jusqu'à là, tu fais une bonne job d'organiser ça sur son groupe Facebook Magie Jeu.
Ouais. Ok, c'est cool. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour. On va se tremper le pied un petit peu. Peux-tu mettre le partage d'écran, Tommy?
Ah, c'est une banane.
Oui.
Tu vas pouvoir. Parce que là, on va continuer dans le lore. Là. On était dans le Phyrexien nouveau. On était rendu avec du Mirari, du Mirodin, du Karn qui a laissé traîner ça. Il y a eu de la mousse qui a pogné. Là, il va falloir le fumigationner pour pouvoir tout sortir. Tu sais.
Oui, j'avais
beaucoup aimé Mirodin, moi, à l'époque.
La semaine passée, on a vu le plan de Mirodin, là, qui est le plan artificiel créé par Karn. Et comment il s'est fait corrompre accidentellement, hein? C'est ça qui arrive quand on combat des Phyrexiens. Voilà, est-ce que vous voyez l'écran?
Ben oui. Tu sais comment
donc,
c'est
oui. Écoute, c'est donc on continue aujourd'hui. Puis ce que je veux faire, c'est mettre le bain là, pour quand les spoilers sur All Be One Phyrexia va sortir le mois prochain. Ben vous allez être capable de vous orienter, hein, parce que ça peut être très désorientant dans ce genre de lore là, de machine biologique borgienne. Donc les origines de les mécaniques, quand on pense New Phyrexia, on pense Poison Counter, on pense Phyrexian Mana. C'est le petit bébé là, de Mark Wiswater, le designer de Magic, quand il a fait Scars of Mirrodin puis New Phyrexia en 2010-2011, c'était en fait là un vieux concept qui traînait depuis des années, je dirais même des décennies. Mark Wiswater, il a commencé en 93 et il mentionne souvent qu'il tripait sur les Poison. Il y avait deux cartes, là, notamment dans Legend et dans The Dark, le Pit Scorpion et le Marsh Viper, qui étaient des cartes que si tu touchais ton adversaire 10 fois, il perdait, avec cette créature-là, il perdait la game, hein, parce qu'il ramassait 10 Poison Counter. Ça avait jamais été vraiment bon. Tu sais, comme tous ceux qui ont essayé de faire des decks de Poison, là, je pense qu'il y a très peu de monde qui peuvent confirmer qu'ils ont déjà gagné une game avec un Marsh Viper là, ou le Pit Scorpion.
Ah, je suis d'accord avec ça que Poison, ça n'a jamais vraiment été bon.
Ça n'a jamais vraiment décollé, mais Mark Wiswater, il y croyait. Hein, il y croyait. Et la première tentative, en fait, c'est le Infect tel qu'on connaît en 2022. La première tentative qu'il a faite, c'est quand il a designé Tempest en 97, il voulait mettre Poison dans ce qu'il appelait Poison à l'époque, là, qui va devenir Infect. Il voulait le mettre dans le set de Tempest. Là. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un Poison Counter que tu touches l'autre, c'est plutôt selon le nombre de dégâts que tu fais avec la créature. Ça avait été pas accepté, ça avait pas passé le peer review là, de ses collègues. Fait qu'ils l'avaient enlevé du set de Tempest et les gens se sont pas trop rendus compte là, que Infect c'était aussi vieux que ça. Ce qu'il a sorti en fait, c'est dans Time Spiral qui est sorti en 2008. Il avait fait un sliver dans ce set-là, le Virulent Sliver. Parce qu'on se rappelle, le Time Spiral, là, c'était le set où il essayait des affaires, hein, notamment là, les borders bizarres. Là. Donc, le Virulent Sliver était simplement que tous les slivers ont Poisonous One. C'est vraiment l'ancêtre là, direct là, de la mécanique Infect telle qu'on le connaît. Mais la raison pourquoi il testait ça, c'était pour voir si c'était trop fort. Et si c'était pas trop fort, ben, il allait le mettre dans un vrai set régulier. Et ils se sont rendu compte que c'était vraiment bien balancé. Fait que quand il est sorti Scars of Mirrodin, en 2010, Scars of Mirrodin, qui était la suite de tant attendu de Mirrodin. C'est là qu'ils ont introduit la mécanique de Infect dans Magic. C'est là que ça va faire son apparition, que ça va être comme, c'est pas mal, je dirais, là, les pins centrales de ce set-là, la mécanique qui se débarque. Donc, c'est quoi Scars of Mirrodin? Ben, j'avais commencé à en parler la semaine passée, c'est que Mirrodin était un plan artificiel créé par Karn. Malheureusement, il a infecté le plan en le créant parce qu'il avait combattu Yagmoth notamment. Et il y a un peu d'huile phyrexienne qui s'est ramassée là, dans le cœur de Mirrodin, en plein centre de la planète. Et tranquillement, au fil des siècles, ça va se répandre de l'intérieur. Hein, et ça va créer ce qu'on appelle la guerre sur le Mirran's War. Ça, c'est le Set Scars of Mirrodin. C'est une guerre entre les habitants de Mirrodin contre cette espèce d'apparition là, qui commence à prendre le contrôle de tout, qui sont les Phyrexiens. Juste mentionner, le set de Scars of Mirrodin est comme un genre de gros remake de Mirrodin. Comme, par exemple, il y a beaucoup de reprints. Par exemple, tous les fameux Mirrodin, hein, qui sont ces genres de robots qui permettent de faire de la mana, ben, ils les ont reprintés dans Scars of Mirrodin, mais avec une petite touch, il commence à y avoir beaucoup plus de biologie. Là. C'est un peu moins artificiel. Même si c'est encore toutes des machines, là, mais tu sais, c'est beaucoup plus bionique. Je sais pas comment vraiment le décrire. Il faudrait voir les cartes. J'ai mis les albums là, dans la description du show. T'avais aussi un concept qui était intéressant. C'était ils avaient commencé ce que j'appelle les double lane pour les pauvres, là, les fast lane qu'on appelle. C'était dans les couleurs alliées. T'avais un set de 5 Fastlane dans Scars of Mirrodin qui rentrait. C'était des double lane qui rentraient on tap si t'avais moins de 2 lane. Fait que c'est bon dans les decks aggro. Et pendant longtemps, jusqu'à Kaladesh en 2016, t'avais comme un désavantage, hein, c'est-à-dire que pour les joueurs qui avaient moins de budget que les autres, ils étaient plus portés à jouer des couleurs alliées comme deck parce qu'ils avaient accès à ces Fastlane-là de Scars of Mirrodin. Dans Kaladesh, ils ont complété le cycle là, qui est dans les Enemy Colors. Maintenant, t'as les 10 lanes qui sont les Fast Lanes. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est comme d'habitude, les lanes véhiculent le lore du set qu'ils veulent représenter. Fait que ces double lanes-là montrent un peu là, comment ce plan artificiel qui était très, très bien ordonné autrefois commence à comme se mélanger. Hein. Comme le Copper Line Gorge, là, qui est le double lane rouge et vert, on voit que c'est les montagnes de fer de Basic Land dans Mirrodin, le artwork, là, qui se mélange avec les forêts en cuivre là, qu'on avait parlé, le genre d'arbres en cuivre. T'as la même chose, là, par exemple, là, le Reserve Verge Ticket, qui est, c'est dans le fond, là, c'est les plaines qui sont des genres d'herbes en rasoir qui convergent vers la forêt avec des arbres en cuivre. Ou le Dark Slick Shore, qui mélange là, l'océan de Mercure que j'avais parlé, avec les swamps, là, ce qui s'appelle les Mephidos, là, qui sont des genres de fumée toxique qui sort de genre de volcan, c'est comme en métal, là. C'est difficile à décrire, mais c'est vraiment cool les artworks. Les Mephidros, pardon, c'est comme ça que ça s'appelle.
Ils ont gardé les deux soleils sur chacune des Dual Lands aussi.
Oui, il y a les soleils, parce que oui, je mentionne que les lunes de Mirrodin, c'est des soleils, et c'est de là que vient le mana à la base. C'est les lanes absorbent le mana qui vient des soleils. Fait que vous voyez le Copper Line Gorge, on voit le soleil rouge et le soleil vert dans le ciel. Tu vois, je l'avais jamais remarqué ça, Jonathan. Good catch.
Ben, moi, celui que j'aime le plus, c'est vraiment le... Pardon, entre les deux, le rouge... ouais, celui-là, blanc-vert. Vert, parce que... Verge. Ben c'est, non, ah, c'est. T'as ça, mais c'est surtout la plaine que tu vois qu'au début, tout est futuriste parce qu'il a mis des hexagones partout, qui est un symbole universel de la science-fiction.
Oui.
Puis après ça, la marde commence à pogner, fait que c'est des tuiles mal posées sur le tapis.
Oui.
En tout cas, c'est ça part à part, mais j'aime.
C'est cool.
J'aime ce petit look-là.
Ça look. On va quitter les laines, on va rentrer dans les... t'avais je t'avais parlé un peu dans les fameux laines artefacts dans le vieux set de Mirrodin. Dans New Phyrexia, ils vont montrer que les Phyrexiens ont corrompu ces laines-là, ces laines artefacts-là. Fait qu'ils reviennent sous la forme les Basic Laines. C'est en fait les ruines phyrexisées des artefacts laines de Mirrodin. Là. Par exemple, le Seat of the Synod. le laine bleue. On voit que le Basic Island dans New Phyrexia, c'est comme, tu sais, c'est la même bâtisse, mais comme en ruine, là. Surtout le Trees of Tales, là, qui était l'arbre artefact. On voit qu'il est devenu une espèce de pile, là, tout croche, là. J'aime vraiment quelques Magic, mais c'est Easter Eggs, là, un peu partout, là, des genres de trucs cachés, là. Je trouve ça vraiment cool.
Quand il y a un genre d'épreuve du temps, parce que tout le lore de Magic a tendance à toujours être médiéval, fantaisiste.
Oui.
Fait que quand tu as une représentation visuelle que le temps a avancé ou reculé, dépendamment, là,
oui.
Ce qui fait que, mettons, être Teferi, ben, tu as un indice visuel quand tu voyages à travers Magic à différentes époques. Tu fais comme, OK, ça c'est clairement après ou il y a de quoi qui est arrivé. Puis je trouve ça. Ça donne
une bonne profondeur. Excellent land, by the way, là, de Mark Tedden, là, la forêt dans New Phyrexia. C'est un de mes préférés, by the way. Vous voyez, il y a plein de petits feux de camp autour, là, puis de gens qui essayent de survivre. Là, c'est vraiment nice.
Non, c'est vraiment une meilleure forêt. Elle tape mieux pour du verre que toutes les autres.
Ouais, ouais. Qu'est-ce que ça allait dire, Tommy?
Ben rien, là. Je checkais, là. J'ai pris le temps de tasser parce que moi, il y a comme nos faces, là, de la manière qu'on est placé.
Ouais, faut que tu tasses la face des habitants. On va parler des habitants. Dans Scars of Mirrodin, les créatures sont divisées en deux factions. T'as la faction phyrexienne et t'as la faction, ce qui s'appelle les Miram, qui sont les habitants là, qui sont pas encore corrompus par les phyrexiens. Ils ont, pour les identifier, c'est facile, ils ont tout un watermark, comme dans les guilds de Ravnica. Là. En arrière de leur texte, ils ont tout un watermark. Les phyrexiens, c'est le signe des phyrexiens, tandis que les Miram, c'est une espèce de... c'est difficile à décrire, là. Je pense que c'est le planète de Mirrodin avec les cinq soleils, là, mais comme c'est abstrait un peu. Là.
C'est un genre de donut éclaté vers le haut.
Ouais. On voit par exemple la carte, là, ça c'est très populaire dans les decks de Tax, les Leonine Orbiter, hein, 4 clérics 2-2 que les joueurs peuvent pas chercher dans leur librairie, à moins de payer 2 colorless. Donc, cette fois, ça dit « Nos gens sont « Our people are torn by infighting. Until the two sides reconcile, our law can carry no meaning. » Dans le fond, ils se plaignent que leur loi ne fonctionne plus parce que les gens sont comme en chicane. Puis là, ils se disent « Il y aura plus de chicane. Ça va revenir à la normale que les deux côtés vont s'être reconciliés. » Ce qui ne comprend pas le Leonine Orbiter, c'est la nature même de la menace, de pourquoi les gens sont en train de se battre un contre l'autre. Ils réalisent pas qu'éventuellement la réconciliation, ça va se faire par la completion phyrexienne. T'avais un aspect qui avait tout le temps été dans ce que j'appelle les phyrexiens old school, là, des vieux sets old border, les phyrexiens dans le noir. C'était le concept de l'huile. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'ils l'ont vraiment mis sur comme bien fait là, dans le New Phyrexia.
Parce que là, attends un petit peu, là, mais oui. C'est quand même assez fort, cette patente-là. Là, toi, tu dis qu'il y en avait juste un petit peu qui a été amené par Karn, puis là, ça a tout scrappé.
T'as comme la boîte dans la botte. Tu sais, quand l'aéroport demande si t'as visité une ferme, là?
Non. C'est pareil comme mettre du tabac dans un joint.
Ah, c'est scénario Grey Goo. Ça bouffe tout, là. C'est des nanomachines.
Tu vas voir dans quelques cartes, là, ça dégénère. Là, tu vas voir. Donc, on parle de l'huile. Hein. T'avais dans Antiquities, parce qu'on a beaucoup parlé d'Antiquities au mois de novembre, la carte Gate to Phyrexia, qui était le portal vers la Phyrexie. Ça dit dans le flavor text, c'était un flavor text, c'est les mémoires de Jarzil, qui est le petit-fils d'Urza, qui visite la Phyrexie par ce portal-là. Ça dit la pluie chaude et graisseuse m'a tombé dans le visage, et c'était le signe clair que j'étais entré en Phyrexie. Ou dans Urza Saga, hein, les cartes noires, c'était la Phyrexie aussi, le Rain of Filth. Qui fait que toutes les laines peuvent être sacrifiées pour faire du mana noir. On voit une espèce de pluie noire, hein, de grosses pluies d'huile noire. Ils n'avaient jamais traduit ça vraiment en carte, à part que ça faisait du mana noir. Dans Scars of Mirrodin et dans New Phyrexia, ils vont vraiment pousser ce concept-là. Ça va devenir en fait la base de la phyrexisation de Mirrodin. Fait que on voit par exemple là, la carte Inexorable Tide, la marée...
Inexorable marée.
l'inexorable marée. Merci, c'est un enchantement que tu payes 5. À chaque fois que tu casses un dans le bleu, 3 colorless, 2 bleus. À chaque fois que tu casses un spell, tu proliferates. Proliferate a fait son apparition dans Scars of Mirrodin. C'est-à-dire que toutes les counters sur la table, partout où il y a des counters sur la table, t'en ajoutes un.
Donc,
si t'as des poison counters, ben, t'ajoutes des poison counters.
Deck de Planeswalker, ça doit être bon, ça.
Oui, sur les Planeswalkers aussi, ça les booste. Ces mécaniques-là visaient en fait à supporter le infect. Et ce que ça montre, on voit des espèces de mirans là, qui constatent que sur le bord de l'océan, il y a des espèces de gros insectes phyrexisés qui sont en train de vomir, une espèce de marée noire. Là. J'aime vraiment beaucoup ce dessin-là. C'est un de mes préférés dans ce bloc-là. Et ça te dit, lis-nous le flavor text, Tommy.
Vrai, hein? See how grateful this world accepts our blessings. Ben oui. Check comment ce monde ici aime ça, ce qu'on leur amène. Ben oui, de la grosse bûche noire dégueuse qui colle. Là.
Et c'est signé ouais. Jin Jitaxia, Core Ogre, qui est le prêteur bleu.
Ah, j'aime ça. Donc... c'est semblable à... Attends, c'est quoi? C'est les forêts que tu avais montré où c'est que l'arbre était tellement énorme. Non, c'est il y a quelques épisodes déjà. L'arbre était tellement énorme qu'une fois coupé, il avait mis deux petits humains pour nous montrer l'échelle de la chose.
Dans Brothers War.
Ouais.
Ouais, ouais, des scale birds là, pour donner l'échelle. De... Ouais, ouais, on voit les deux petits humains en avant là, qui sont.
Ouais, puis c'est ça, il y a la même petite technique de composition d'image pour donner un aspect épique à la pollution. T'as pas juste la fumée verte, t'as des insectes que t'es même pas aussi gros qu'une dent.
Là. Ouais. Moi, cette carte-là, la raison pourquoi comme j'obsède autant dessus, c'est que je sais pas pourquoi, mais un moment donné, j'ai rêvé que je marchais sur la plage chez nous à Gaspésie. Puis t'avais des carcasses de gros insectes comme ça qui étaient tombés un peu partout. Là. Ils crachaient pas du phyrexien, là, mais c'est juste que tu sais, comme cette image-là m'a tellement marqué qu'à un moment donné, je l'ai rêvé. Vraiment cool comme dessin, vraiment cool. Donc c'est ça. Fait que là, il commence à y avoir l'huile noire, puis t'as plein de cartes dans le bloc, surtout à partir de Mirrodin Besiege, qui est le deuxième set sorti à l'hiver 2011. C'est la fameuse huile. Hein. T'as plein de cartes là, qui comme Ichor Wellspring. Qui est juste un petit artefact niaiseux pour deux colorless, que quand il rentre sur Battlefield ou qu'il va au Graveyard, tu piges une carte. On s'entend, ça fait rien, là. C'est juste pour activer du Artifact Matter. Ce que la carte représente, c'est que t'as une espèce de puddle d'huile noire qui vient d'apparaître sur la plaine parfaite là, de Mirrodin. Hein. Et surtout, dans le flavor text, ça dit « Notre glorieuse infection commence à prendre forme », signé Elish Thorn, Grand Cinnabit. Le terme technique pour caractériser quand un être vivant se fait toucher par celui-là, qui devient infect, on appelle ça le phyresis. C'est un nom de maladie. C'est quand tu commences à être infecté par les phyrexiens. C'est quand on le laisse un noir, un aura, que tu le mets sur une créature, elle a maintenant la mécanique infect. C'est-à-dire que quand elle fait du dégât, c'est soit en counter -1/-1 sur des créatures, ou ça fait des poison counters sur les joueurs. Quand il y a 10 poison counters, il perd la game. La perfection est proche. Tu as été libéré de tes faiblesses et tu es maintenant complete, signé Sheldred. Vous voyez, tous les flavor texts là, de la faction phyrexienne sont signés par les Praetors. C'est vraiment cool.
Ah ouais, c'est cool.
Je suis surpris qu'il ait utilisé le terme Cenobite pour... dans les années 90 dans Magic the Gathering.
Ça, c'est 2011.
Ah, 2001, ça, ok.
2011.
Ben, je suis surpris. Je pensais que c'était...
Cenobite, ça vient des mangas?
Ça appartenait à Clive Barker et sa gang, genre.
Oh, ouais, c'est surtout... En tout cas, c'est que moi, quand j'ai vu le design qu'ils ont utilisé pour, entre autres, Elishnorn dans New Phyrexia, je trouvais que ça faisait très Cenobite. Puis de voir que il semble ouais. avoir un lien.
Oui, il y a un lien évident. Là. Ils prennent pas leur truc à nulle part. Hein. Parce que c'est comme dans Mirrodin, là, où tout le monde convoitait le truc, puis tu comprenais que c'était dans le fond, c'était l'anneau de Sauron. Là. Parce que c'était à l'époque, c'était influencé par le film Lord of the Rings.
Oh, ouais.
Glistening Oil, un autre aura qui donne Infect. Au beginning de upkeep, faut, par contre, tu mets un -1/-1 sur le Enchanted Creature. Ça coûte 2 noirs. Le terme Glistening Oil, c'est un terme que vous allez revoir souvent. Glistening Oil, O-I-L, ça représente là, la fameuse huile phyrexienne. C'est la base de la phyrexie. La phyrexie ne peut pas exister si elle n'a pas cette huile-là. C'est comme ça qu'elle se répand. Parce que dans le fond, une créature qui t'attaque est une créature phyrexienne. En réalité, c'est juste un cadavre animé par un robot que le les mécanismes du robot, c'est cette huile-là qui le fait bouger.
Ah ouais.
C'est ça que ça représente.
C'est pas mal cool, ça, ce spell-là. J'ai corrigé des decks là-dessus. Je suis allé voir sur Internet et le Merriam-Webster Dictionary nous annonce qu'un cénobite, ça a été utilisé pour la première fois au 15e siècle comme mot. Et ça réfère à un membre d'un groupe religieux qui habite avec d'autres cénobites dans une
c'est comme un moine.
Communauté isolée. Ouais,
ça fit avec le. Parce que le Schnorn, c'est comme ce genre de direction fasciste très ordonné blanc. Là, on va le voir un petit peu plus tard. Là. C'est ça leur trip. Là. On se souvient de Glissa Sunseeker. Hein, c'était l'elfe dans Mirrodin qui avait vaincu Memnarch. Donc, elle est de retour dans Mirrodin Besiege en tant que pour représenter là, justement les créatures légendaires qui ont été phyrexisées. C'est Glissa la traîtresse, un noir deux verts pour un 3-3 first strike de touch. Quand une créature que ton adversaire va au graveyard à partir du battlefield, tu peux ramener un artefact de ton graveyard dans ta main. Là, c'est
oh, pas très... tabarnak, man! 3-3 first strike de touch, c'est musclé à Chris, là.
Ouais, mais je sais pas, je vois pas beaucoup de play avec cette carte-là, mais c'est surtout pour représenter il faut qu'ils ont gardé les gens qu'il y avait dans Mirrodin. Moi, je suis convaincu qu'on va revoir Glissa dans le prochain set qui sera au mois de janvier. J'ai hâte de voir quelle nouvelle forme elle va prendre. Vous remarquez, à l'époque, le Phyrexian type dans les créatures n'existait pas encore. C'est pour ça qu'il y a juste une zombie elf. Ils ont tous été erratés en tant que Phyrexian. Donc, c'est ça, le 7 Mirrodin Besiege qui est à l'hiver, ça représente vraiment la guerre entre les Phyrexiens qui prennent de plus en plus de place et les Myran. Puis là, t'as toute une série de cartes qui montrent cette espèce de guerre. Puis quand t'allais au pre-release, tu pouvais choisir soit tes booster packs de Myran ou tes booster packs de Phyrexiens. T'avais comme deux choix, là. Fait que là, tu sais, des cartes comme Rally de Force où on voit Cut qui mène une gang, le Blizzwalker Cut, hein, qui amène une gang de Myran. Ça, c'est dans le rouge, là, c'est pour attaquer. Puis là, on voit au loin des créatures phyrexiennes. Ça, c'est juste un spell qui fait que toutes les créatures ont plus 1, plus 0. Hein, mais j'aime bien que le flavor text, là, ça dit Drive them back, make their underworld into their grave, signé Cut the Hammer. Puis de l'autre côté, ben, t'as Lead the Stampede où ce qu'on voit Glissa qui est au-dessus d'un espèce de troupeau de bibites phyrexiennes. Tu regardes les 5 premières cartes de ta librairie, tu peux révéler un nombre de créatures que tu veux et tu le mets dans ta main, tu mets le reste dans ton bottom de ta librairie. C'est un peu un l'ancêtre de Collected Company en vraiment moins fort. Mais c'est juste pour montrer là, que ça fait comme un miroir, un l'autre. Tu sais, tu peux comme choisir ta faction. Ou le land Contested War Zone, qui est vraiment ça, là, c'est quand la zone de guerre contestée. À chaque fois qu'une créature fait du dégât à toi, lui qui contrôle la créature gagne le contrôle de Contested War Zone. C'est juste un land que tu payes 1 pour donner plus 1, plus 0 à toutes les créatures.
Yeah, c'est donc bien cute.
Ça, c'est en multiplayer, c'est le fun, ça se promène. Là, mais le problème, c'est que ça fait juste du mana colorless, c'est pas vraiment bon. Mais c'est un land qui se promène, là, c'est comique. Ça se promène autour de la table. Tout le monde a déjà vu le Worm Coil Engine. Hein? C'est ça vient de Scars of Mirrodin. C'est les grosses créatures phyrexiennes. Hein? Le Worm 6-6 Death Touch Lifelink pour 6. Puis s'il se fait détruire, ben, il devient deux tokens. Un token 3-3 Death Touch et un token 3-3 Lifelink. Ça, c'est le Worm Coil Engine. Dans mes images, j'ai pris le mauvais. Là. T'as un token qui est Death Touch et un autre token qui est Lifelink. Dans les decks de Tron notamment, là, c'est le genre de créatures qui veulent caster, malgré qu'en 2022, ils commencent à avoir plus de choix. Là. Mais cette créature-là, là, je l'ai source sous Plowshare souvent.
Ben oui.
c'est très fort.
T'as pas le choix d'exiler, parce que sinon, c'est une carte. Ça va te prendre 3 cartes. Ouais. Dealer avec une seule créature de ton adversaire, c'est une carte que François Lompré, un habitué de terrain basique, joue souvent.
on continue. Dans les j'aime beaucoup là, les t'as plusieurs comme créatures qui étaient dans le vieux set de Mirrodin qui ont fait en personnes phyrexisées. Hein. Comme on voit, tantôt on parlait des Cénobites, hein, le Priest of Norn, 2 colorless, 1 blanc pour un cleric, 1-4, vigilance, infect. Ça, c'est les prêtres de Elish Norn. Hein? Ça dit « May her blessing sever the tongue of the forsaken », signé Elish Norn.
Est-ce que ces bénédictions, on espère que ces bénédictions vont couper les langues des oubliés.
Oui, les oubliés étant ceux qui se sont pas fait phyrexiser. Fait Lost Leonin, qui est un chat, un colorless, un blanc, 2-1 infect. Ça dit là, les Miran were broken down and rebuilt, made to be loyal servant of the force they fought. Donc, les Miran étaient brisés et reconstruits pour être des loyaux serviteurs des forces qu'ils combattaient autrefois. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est ça que la Phyrexie fait, là, c'est que, si tu perds au combat contre la Phyrexie, ben, ils te pognent, ils te défont en morceaux, puis ils te reconstruisent en forme complete avec Infect. Les dessins, je trouve les dessins vraiment cool. Moi, je trouve beaucoup l'espèce zombie mécanique. Pas mal nice. Et t'avais beaucoup de, t'sais, des riffs là, sur des anciennes cartes refaites avec Infect, comme le Blink Moth Nexus, qui était le Creature Land dans Dark Steel, sorti en 2005, ben, en 2004. Ben, ils l'ont refait en Ink Moth Nexus, qui est dans le fond la même chose, mais avec Infect. C'est un land qui peut devenir un flying avec Infect. Ça, tous les decks de Infect jouent ça. Là. C'est généralement avec ça qu'ils terminent. Parce que ils vont jouer des Dry and Grow, des affaires comme ça qui te boostent. Puis là, ils t'attaquent une fois avec un flying. Ils boostent à 10. Puis là, t'es mort. La game est finie. 10 Poison Counter. Merci, bonsoir. Donc, ça, c'est un classique là, des decks d'Infect. On va en voir une couple d'autres. Juste là, pour la variété. Là. Quand tu draftais ces sets-là, c'était très supporté la mécanique Infect. Là. T'avais pas mal. Le vert, le bleu et le noir avaient du Infect. Je pense que toutes les couleurs avaient en fait Infect en commune. Le Glistener Elf, qui est le 1-1 vert Infect, c'est très simple. Le Blighted Agent, un colorless, un bleu, un Infect, qui peut pas être bloqué. Très important. Et le Ikorkla Mir, qui était un artefact, un Mir, hein, et un Mir qui a Infect 1-1 pour 2. Et s'il se fait bloquer, il gagne +2/+2, donc il va faire -3/-3.
Jason, là, il commence à avoir du Phyrexien un petit peu partout, là. C'est quoi qu'on va faire?
Il n'y avait pas grand chose qu'on peut faire parce que les Miran ils perdent. Hein? Fait que c'est pas.
Ah, je sais, on pourrait peut-être faire exploser le Golgothian Silex.
Tu me devances.
Le Golgothian Silex a été scrappé par Monsieur Shaw. Hein?
Bon.
La dernière mécanique que je voulais parler, là, qui est le. Dans le fond, l'autre mécanique importante de New Phyrexia, c'est le Phyrexian Mana. Hein. Puis, t'avais toute une série de spells en commune. Ça l'a vraiment pogné parce que tous ces spells-là sont encore joués beaucoup en moderne. Tu sais, en 2022, là, ça s'est pas démodé. Fait que t'as toute une série, là, puis c'est selon la couleur, comme Apostle Blessing, ça donne une créature, ça lui donne Protection from Artifact ou une couleur de ton choix, mais ça te coûte juste un colorless et un Phyrexian Mana blanc, c'est-à-dire que tu peux payer 2 de vie au lieu de payer du blanc. Le Gitaxian Probe, qui est, tu regardes la main de ton adversaire, mais surtout, tu piges une carte. Fait que dans le fond, tu payes 2 de vie pour piger une carte. Puis ça active un prowess. Ça, ils l'ont banni en moderne et en legacy parce que c'était trop fort.
Ça, puis le counter spell, je pense qu'ils ont banni.
Oui, c'est pas que la carte en tant que telle ne fait rien, mais le fait que t'as pas besoin de la payer puis qu'elle te fait payer une carte, fait qu'elle se remplace. Faisait que dans des decks de prowess là, avec des Monastery Swiss Spear, ce qu'on appelait les decks de Delver, moi, c'est ce que je jouais en 2016-2017. C'était vraiment fort, puis Gitaxian Probe, tu payais 2 de vie, tu t'as remplacé, tu ressortais un autre comme un Lightning Ball, whatever. Fait que c'était facile autour de 2-3 de faire ton kill grâce à Gitaxian Probe. Puis le fait de regarder la main de l'autre, ça te permettait de savoir quand est-ce que tu vas attaquer, tu sais, ça permet d'anticiper ça va être quoi ces
réponses. Ouais, t'avais du perfect information dans ton deck de contrôle. Puis en plus avec du Storm, c'est juste ridicule parce que c'est une carte de suite. Puis je me souviens plus c'est quel tournoi. Je pense que c'est quelque chose de ridicule. Le gars jouait techniquement mono vert, mais il y avait Got Shot dans son deck.
Ouais, Got Shot, c'est dans le rouge, tu fais un dégât à une créature ou un joueur pour un Phyrexian Mana.
C'est ça. Puis fait qu'en plus que certaines cartes de briser, là, comme carrément le Counter Spell, pour un Mana Phyrexian, c'est que ça brise le Color Pie. Comme, si tu joues contre du mono vert, c'est plate à voir. C'est peut-être de faire counter-speller ton sword to plowshare parce que l'autre, il paye 2 points de vie puis c'est fini, là. Tu sais, c'est pas
c'est pas un counter-spell clear, by the way, là. C'est juste, c'est counter-target spell, à moins que l'autre, tu payes un colorless. Mais c'est souvent suffisant, là, pour, comme tu dis, là, c'est l'autre, il pense s'en sauver avec son force of will ou son sword to plowshare, puis là, t'es fait, nope.
Ouais, ben, c'est limité au, casting cost 1, mais c'était juste déplaisant. Puis justement, là, comme.
Ah oui, c'est ça, c'est pas que ça ajoute une taxe, c'est que c'est counter spell, un spell qui a un de casting cost.
Oh, c'est ça, fait que dans les méta hyper compétitifs, c'est extrêmement fort. Puis, tu sais, inversement, même les affaires qui sont pas si fortes explosées en pouvoir, comme mettons Mutagenic Growth qui donne +2/+2. C'est comme pas le fun voir ça sortir dans un deck noir, tu sais.
Ouais.
Qu'est-ce que tu fais là?
La dernière dans le genre, là, qui je trouve que c'est vraiment fort, puis ça, c'est un autre exemple que les decks de n'importe quelle couleur vont mettre. Le Dismember, hein, ouais. Où on voit là, les bras de robots phyrexiens qui sont en train de démanteler un Léonine, les genres d'hommes chats. Un colorless, un mana phyrexien noir, un mana phyrexien noir. Une créature a -5/-5 until end of turn. Ça tue pas mal tout ce qui est dans la méta. Ça, j'aime beaucoup le flavor text. Hein, ça te dit, tu sers maintenant la Phyrexie. Chacune de tes pièces va maintenant servir la Phyrexie ailleurs. Parce qu'il est en train de se faire démonter. Ça, c'est vraiment cool.
C'est vraiment fort. C'est avec Lightning Bolt, c'est dans les removals les plus populaires. Puis,
un colorless, c'est 4 de vie, puis tu détruis n'importe quoi.
Ouais, puis ça passe à travers Indestructible. Puis personnellement, ils ont fait un reprint dans un Secret Lair que j'adore avec des vieux films, des styles vieux films des années 60-70 que j'adore.
Ah, les films d'horreur de Innistrad, là?
Ouais, exactement.
C'est quoi qu'ils avaient mis pour Dismember?
Personnellement, puis j'ai demandé à l'expert en cinématographie, Pascal, puis il n'a pas été capable de cibler. Moi, je trouve que ça a des vibes Mask of Red Death, mais on n'a pas été capable. Je ne sais pas si quelqu'un... Ah oui, c'est vrai, c'est toi qui me l'avais dit. Je me suis trompé avec Blasphemous Ox, c'est Yawgmoth.
Ouais, c'est Yawgmoth avec sa scie.
Yawgmoth avec sa scie. Excuse-moi, je suis parti dans une autre direction, mais j'adore cette...
Et qui, Yawgmoth?
Ben, c'est qu'ils avaient fait la Yawgmoth en créature à un moment donné. C'est que Yawgmoth, dans le roman, je l'avais déjà mentionné, c'est que à l'époque des Tran, hein, que les Tran existaient, c'était un médecin Tran. Il a inventé l'huile phyrexienne par accident dans ses expérimentations parce qu'il cherchait un remède à la pollution que faisaient les Power Stones. Donc, on continue le avant de sauter là, dans la carte de la semaine. J'aime bien aussi le. Tu sais, t'as tout le temps le Phyrexian Rager dans chaque set de Phyrexie, qui est juste là pour un peu annoncer qu'est-ce qui va se produire dans le futur. Hein. Le Phyrexian Rager là, dans Scars of Mirrodin, qui est un 2-2 pour 3, que tu. Quand tu rentres sur Battlefield, tu payes une carte, tu payes une vie. Ça dit, je crois qu'il y a plusieurs mondes qui vont plier devant la Phyrexie. Mirrodin, c'est seulement le premier, et c'est signé Sheldred. Donc, on a là une espèce de prémonition là, de que la Phyrexie, elle veut s'étendre dans le reste du multivers. Le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le moyen de le faire. On va découvrir bientôt de comment ils vont s'y prendre.
Aïe, ça veut dire que ça nous amène à la carte de la semaine, présentation de l'adversaire 43-03 Sainte-Catherine Est. On va écouter une petite tranche de Beat à Bone. J'ai assez hâte de voir. J'espère que la carte de la semaine, c'est la réponse à ça. OK, Beat à Bone. OK, c'est quoi?
Ben écoute, j'ai décidé de faire comme une pause dans le lore. Parce que moi et Jonathan, on a découvert de quoi. Ben plutôt, on a confirmé de quoi en fin de semaine en jouant à Magic. Que ça, on se posait la question si c'était vraiment bon. Puis là, on l'a testé, puis on va en discuter ce soir. La carte de la semaine, je vais faire comme un petit préambule. Tommy, je sais pas si tu vois la carte... Je sais pas si tu étais capable de nous lire le flavor text de la carte Bélier parue dans Antiquity. C'est pas la carte de la semaine, mais je veux que
tu... Au moment où Mishra fut défait, plus aucun mage n'était assez fou pour faire principalement reposer sa défense... sur des murs, effectivement.
Donc, effectivement, c'est un vieux rêve de tout joueur de Magic là, depuis longtemps, de réussir à faire un deck de wall, un deck qui n'a que des walls, hein, un deck défensif. Pas un deck de contrôle qui joue 4 walls pour se défendre contre le aggro. Là. Je parle d'un vrai deck de wall avec les walls qui attaquent. c'était, tu sais, ils ont fait plusieurs cartes au cours des années que c'était tout le temps soit surtout des enchantements qui faisaient que tes walls pouvaient attaquer et fesser avec leur toughness. Tu sais, assaut formation, high alert. Dans le set original, dans le Magic original 93, il y avait Animate Wall, qui était juste un aura, là. Mais, tu sais, c'est tout le temps conditionnel qu'il faut que t'aies assez de wall pour que ça marche.
Ouais, ben, il faut que t'aies assez de wall, puis il faut que t'aies. Tu sais, il faut que tu aies aussi de cossin pour l'activer, il faut que tu éliges, puis il y avait même, je pense qu'il y avait même assez de d'encourager la communauté à construire ça avec un commander.
Oui, Doran de Siege Tower. Et c'était bon dans les drafts, parce qu'il y a plusieurs sets là, que tu avais des archétypes qui était basé sur les drafts, sur les wards. Le dernier, c'était dans Dominaria United. Et ça nous amène à la carte de la semaine, qui est le Walking Bulwark. On a déjà parlé à notre show dans un contexte de draft, mais en fin de semaine, moi et Jonathan, on l'a testé dans du Construit Legacy en multiplayer. Le Walking Bulwark, c'est un 0-3 pour un colorless qui a Defender. Mais surtout, tu peux payer deux colorless, t'as pas besoin de le taper, deux colorless, until enough turn. T'as une créature qui a Defender qui gagne Haste et peut attaquer comme si elle n'avait pas Defender. Cool. Et assigne son dégât en fonction de son toughness. Tu actives ça en tant que sorcery.
Donc, protège les lapins en plus, les lapins puis les oiseaux.
Ouais, il y a des scales lapins pour montrer à quel point il est gros. Ce qui est cool de cette carte-là, c'est que premièrement, tu peux le sortir au tour 1. Tu peux le mettre dans n'importe quel deck de wall de n'importe quelle couleur. Moi, en fin de semaine, c'est vendredi, j'ai fait 6 games là, avec mon deck de wall que j'étais vert, blanc et bleu. Toi, Jonathan, t'es vert, blanc et bleu aussi, le tien que t'as essayé?
Non, j'ai... En construction, j'ai... Le problème que je trouvais, c'était que le vert, blanc et bleu, tu te ramasses que c'est ce que tu veux avoir pour avoir le plus de wall enabler, genre
mais c'est le high alert que je parlais tantôt, là, entre
autres. Ouais, c'est que tes vœux dans ton deck, tu veux être sûr, parce que si t'en as pas une en jeu,
ouais, c'est ce que je visais, là.
Ton deck est mort, puis ça, là, étant donné qu'il est colorless, ben, c'est parfait. Mais avec ça, moi, je me suis concentré sur Walking Bulwark. Je suis capable d'aller le fetcher avec l'autre robot qu'ils ont fait, dans le nom, je m'oublie, puis j'avais le Assault que tu montrais dans l'image principale. Fait que personnellement, moi, je suis satisfait avec ça. Toi, t'es allé trois couleurs, puis ton deck me bien
ramassé. La misère, mon mana base, c'était sa faiblesse, c'était ça. Là.
Ouais, mais t'avais du flying. Puis,
mais Walking Bulwark, là, moi, ça m'a vraiment impressionné parce que mon deck, j'ai dû réanimer avec Dusk. Que je peux ramener toutes mes walls de mon graveyard qui ont deux manacas ou moins. Le Walking Bulwark, ce qui est le fun, c'est que mettons, tu payes, t'as deux créatures tu mets deux walls en jeu, les walls souvent sont deux de manacas. Tu payes 4 et ils vont avoir Ace, ils vont attaquer tout de suite. Fait que ça en a surpris plusieurs quand on a joué vendredi, c'est que je rentrais mes walls du graveyard. Tout de suite, là, je leur donnais Ace, ils attaquaient, puis tu sais, il est très polyvalent, le Walking Bulwark.
Ben, c'est une autre affaire qui est le fun, en tout cas pour moi, là, c'est que t'as deux staples dans n'importe quel deck de wall, à mes yeux, puis c'est les deux créatures vertes qui donnent du mana égal à la quantité de murs que t'as.
Ah, OK, ouais, c'est là le X-Bane Guardian, le Overgrown Battleman, ouais. Qui donne un nombre de mana égal à ton nombre de wall, effectivement, de créatures avec Defender, pardon.
Fait que c'est ça, c'est comme t'as ton mana ramp que une fois que t'as ton board de créatures comme relativement qui ont un coût un CMC très bas, t'as ces deux de ton ramp qui génère une quantité de mana comme vraiment ridicule, puis en plus ton bulwark, c'est un effet que tu peux répéter comme à deux mana de la shot.
Moi, le truc que je faisais, c'était je rentrais le Overgrown Battleman en jeu. Je payais avec mes lands, je payais pour mon Walking Bulwark pour donner Haste à mon Overgrown Battleman. Je le tapais pour créer du mana qui payait ensuite le cost de mon Walking Bulwark pour que les autres murs attaquent. Ça, j'ai fait ça souvent.
Ouais, c'est pas mal. Ça fonctionne très bien. C'est aussitôt que t'as ça, t'as ton Walking Bulwark puis un des deux mana ramp. Ton board au complet, il y a Haste.
Ouais.
C'est ça.
Bam!
Ouais, j'aime ça.
Tu joues Shield Sphere 0-6 pour 0. Wall of Blossom, Wall of Woman qui se remplace quand il rentre. Moi, j'aime beaucoup le Hover Barrier qui est un 0-6 Defender Flying pour 3. Le Jeskai Barricade, un 0-4 Defender Flash qui permet de bouncer tes Wall of Roots pour les resetter.
Puis là, t'as du coup machin pour qu'on puisse pas le bloquer vu que toutes tes walls, ils ont 0 de power puis tu connais rien.
Exactement, exactement. Pas mal de fun avec ce petit Walking Bulwark là. Je pense que c'est pas le compétitif de tournoi là, mais dans du Kitchen Magic, attention. J'ai juste gagné une game sur 5. Mais il y en a deux qui étaient proches, puis ça se tenait. J'avais surtout un problème de mana cost. Je vais revoir mes lands, là, puis je pense que la prochaine fois, ça va mieux aller.
On jouait à 3, puis on se ramassait souvent dans une situation de Kingmaker.
Ouais.
Mais ton disenchant bien placé me fait mal. Fait que même si je l'ai gagné, celle-là, la victoire morale te revient. Les petites différences qu'on a dans nos decks, c'est... comme moi, je mets Mixstone, puis je pense que c'est Age of Reckoning que je mets pour mon board wipe. Toi, t'as The Dusk Down.
Photo ici, là.
Ah, ça, c'est ton deck, ouais.
Ouais.
Ah, puis il va falloir que t'enlèves ton Wall que Shroud.
Ouais, c'était le deck que t'avais fait pour venir me battre, là.
Ouais, ouais. J'avais mis une petite erreur. J'avais mis le Wall of Denial qui est 0-8 Flying Shroud. Mais le problème, c'est que je pouvais pas le targeter avec mon Walking Bulwark. J'avais pas pensé à cet aspect-là. Des choses qui arrivent dans la vie, mais faire un petit peu de lore facile. Le Walking Bulwark, le dessin, parce que le Walking Bulwark est dans Dominaria United, qui se passe à l'ère contemporain, et dans Brothers War, qui se passe dans le passé de Dominaria, il y avait Coastal Bulwark, qui était aussi un wall 1-3 au lieu de 0-3, et qu'on voyait l'espèce de gros robot. Là. C'est, en fait, c'est le Walking Bulwark, c'est un robot de Urza. Il y a le design, là, c'est rond et ils sont comme obèses un peu, je sais pas comment décrire ça. Là. Et avec des gros boucliers, là, parce que Urza, c'est ça, il est très défensif. Fait que le Walking Bulwark, c'est un artefact déterré d'un ancien Coastal Bulwark. Mais comme on voit, le bouclier est comme magané un peu, puis il y a pas mal de rouille dessus. Mais je trouve vraiment cool la continuité entre ces deux-là. Puis je vous rappelle qu'à la maison, si vous avez des Wall of Wood, hein, parce qu'on parle de Wall, les Wall of Wood, il y a une erreur à distribution, ça appartient tout à Tommy Godet.
C'est vrai.
Fait que vous le contactez par Facebook pour lui envoyer par la poste.
C'est vrai, s'il vous plaît, il n'y aura pas de suite légale, on fera pas de procès, rien, là, mais toutes les Wall of Wood que les gens ont et que c'est pas moi qui a. C'est supposé revenir à moi à un moment donné. Merci beaucoup, Jason, de le mentionner. C'est important. 2022, j'en ai repogné encore quelques centaines. Là. C'est bon, on lâche pas. Fait que c'était la carte de la semaine pour faire un deck de Wall. Hein. Probablement que ça va donner un petit go là-dessus. Fait que on va pouvoir écouter le Bitabone puis aller finir encore. Hein. Ben là, ça va être fini. Là. Tout finit bien avec la Phyrexie. Tout est correct. Ok, il fait une phase de content. Fait que beat à bonne, on check de l'autre bord. Ok, fait qu'on jase de quoi?
Ben écoute, on va continuer ce qu'on s'est laissé tout à l'heure. Je vous ai fait comme je vous avais fait un résumé là, des mécaniques puis de la... Moi, je peux dire ça, là, la saveur de Scars of Mirrodin, puis New Phyrexia, puis Mirrodin Besiege. Là, on va aller voir un peu plus là, rapidement les personnages en tant que tels, qu'est-ce qu'ils font. J'avais mentionné à la fin du bloc de Mirrodin, c'est Karn, il revient sur Mirrodin pour essayer de savoir, tu sais, comme il fait comme son tour, là, hey, qu'est-ce qui se passe ici? Puis il se rend compte là, que son plan a été infecté par la Phyrexie. Donc, dans Mirrodin Besiege, il y avait une série de cartes. Maintenant, on est un peu habitué, mais faut se mettre dans le contexte que quand c'est sorti à l'hiver 2011, on n'avait pas vu Karn depuis le Phyrexian Invasion en 2001. Fait que ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas vu Karn sur des cartes de Magic. On savait pas qu'est-ce qui était devenu. Tout ce qu'on savait, c'est qu'à la fin de l'invasion phyrexienne dans Apocalypse, c'est le Legacy Weapon, c'est que Urza sert de Karn notamment pour faire une grosse explosion qui détruit Yagmoth. Et après ça, c'est Karn crée Mirrodin, puis on le voit plus vraiment sur des cartes. Dans Mirrodin Besiege, on se rend compte que Karn est prisonnier, il est au centre de Mirrodin, au centre de la planète, Et il est comme prisonnier des forces phyrexiennes. Fait que c'est le Corrupted Conscience, la conscience corrompue, trois colorless, deux bleus, un aura, c'est un control magic. Hein. C'est, tu prends contrôle de la créature enchantée, ça peut être une créature de l'autre, et elle a infect. Ça dit dans le flavor text, la création de Karn est maintenant son maître, puis on voit qu'il est assis dans une espèce de trône, puis qu'il commence à avoir comme sa peau en argent, sa peau c'est plus comme son, c'est un golem le Karn, mais son corps en argent est en train d'avoir des genres de spikes qui poussent un peu partout. C'est Karn qui est en train de se faire phyrexiser, carrément, et qui est un peu comme un genre de, pensez là, le roi Théoden dans Two Tower là.
Ah ouais, il se fait siffler dans l'oreille là.
Il se fait carrément, merci de le mentionner Tommy, il se fait littéralement siffler dans l'oreille. Il y a la carte Destined Memory hein, qui est un sorcery 2 colorless 2 bleus, tu chauffes dans ta librairie pour une carte, tu l'exiles, tu chauffes ton librairie et n'importe quel adversaire peut placer cette carte dans tes mains. S'il le fait pas, tu piges 3 cartes. La mécanique, on s'en fout. Ce qu'elle montre surtout, c'est Karn est comme torturé par ses mémoires. On voit notamment là, les soleils de Mirodin. On voit le visage de Urza. Et on voit aussi le visage de Venser, qui est un personnage dont je vais parler dans quelques instants. Et ça dit dans le flavor text, « The fleeting shadow of his primitive self have all but vanished, Sinigin Jitaxia. »
Les ombres de son passé primitif ne sont pas encore tout à fait disparues. Là. Il reste des bribes. Là.
C'est que Karn, je l'avais mentionné, c'est le père des machines. Puisque c'est lui qui a créé Mirodin, il est vu comme le créateur, comme le genre de dieu de la place. Et ils ont notamment à la surface, ils ont fait plusieurs statues. T'as plusieurs, j'avais parlé la semaine passée, il y a beaucoup de statues sur Mirodin, et à partir de New Phyrexia, ils se mettent à faire des statues au visage de Karn. Il y a tout un cycle dans les cinq couleurs des artefacts qui sont des grosses statues de Karn, comme a Shrine of Loyal Legion, où on voit l'espèce de grosse face de Karn là, sur une plaine. À ton upkeep, si, à chaque fois que tu casses un spell blanc, tu mets un charge counter sur ton shrine, et tu peux payer 3 colorless, le sacrifier pour faire des mires égal au nombre de counter qu'il y avait dessus. T'as la même chose dans Shrine of Burning Rage, où ce que là c'est plus un Karn en feu, une genre de statue en magma, quand tu le sacrifies, ça va faire un nombre de dégâts égal au nombre de charges qu'il y a dessus. Ça c'est bon dans les decks de burn en moderne, by the way, là, c'est une bonne carte de sideboard. Parce que si l'autre, tu sais, il bloque tes spells, ben, toi, tu fais juste charger ton shrine de Karn, puis à la fin, t'es pète d'en face. Mm. Je joue beaucoup avec cette carte-là, moi. Mais ce que ça représente, c'est que, tu sais, Karn, c'est comme une divinité, même chez les Phyrexiens, là. C'est le father of the machine. On a vu Eleshnorn la semaine passée, elle était la mother of the machine.
Hein. Ben là, c'est comme une manière de le contrôler, d'essayer de le brainwasher.
C'est totalement ce qui se passe. On voit sur Praetor Council, qui est l'autre carte où on voit encore Karn assis sur son trône, 5 colorless, 3 verts. Tu retournes toutes les cartes de ton graveyard dans ta main et t'exiles Praetor Council. T'as maintenant plus de maximum and size pour le reste de la game. On voit c'est là, cette fois-ci, c'est Vorinclex qui est en train de parler dans l'oreille de Karn. Fait que dans le fond, Karn est comme au milieu de la planète et les Praetors, chacun leur tour, viennent y parler dans l'oreille et essaient de l'avoir de son bord. Seule chose en fait qui permet à Karn de comme d'avoir un petit peu encore de volonté indépendante, c'est que les Praetors sont tous en guerre un contre l'autre, les cinq couleurs.
Ah ouais. Mais ce que j'aime, si tu reviens un peu en arrière, là, les altars, les statues qu'ils ont faites, je trouve que, moi, ce que je trouvais intéressant en checkant sur Scryfall, c'est qu'on dirait qu'il y avait déjà, ils ont comme solidifié le look pour les années à venir de chacun des Praetors. Comme chaque shrine fit avec le Praetor de la couleur que ça représente, puis ouais, je trouve ça intéressant.
Shrine of Royal Legion est très Elishnorn dans sa forme, effectivement.
Ouais, avec le genre de sang, puis la porcelaine, puis en tout cas, même le... Mais c'est quelque chose que je trouve intéressant.
Donc, le c'est ça. Fait que Karn est comme un prisonnier des Phyrexiens sur Mirodin. Tu vois, ça dit là, dans le flavor text de Praetor Council, as the Phyrexian contagion corrode Karn's body, the Praetor whisper psalm to corrupt his mind. Donc pendant que la contagion phyrexienne est en train de rouiller son corps, les Praetors chuchotent à son oreille des psaumes pour le corrompre. Fait que c'est ce que je dis là, tu sais, comme Karn est comme un genre de puppet. Il y a une bande de héros qui vont vouloir le sauver. Donc, t'as une brochette de Planeswalker, là, qui, c'est pas mal là-dessus que va s'appuyer, en fait, la progression de l'histoire de New Phyrexia. C'est, t'as trois Planeswalkers qui vont comme découvrir que Karn est comme prisonnier des Phyrexiens. En fait, au début, ils se demandent c'est quoi les Phyrexiens. Fait que c'est Cut of the Hammer, qui je n'avais parlé la semaine passée, qui est le Phyrexien natif de Mirabin. Il va chercher de l'aide. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il sera sur Dominaria pour chercher d'autres Planeswalkers. Il rencontre en cours de chemin notamment Ajani. Et Ajani va le plugger auprès de Elspeth. Elspeth, on se rappelle dans le storyline d'Elspeth, elle est originaire d'un autre plan qui a été corrompu par les Phyrexiens, qui est en fait New Capenna. Sauf qu'elle ne sait pas que New Capenna, éventuellement, ils ont comme construit une ville pour se protéger des Phyrexiens. Là. Mais ouais. Elspeth, elle se sauve de ça et elle se promène à travers le multivers. Et à ce moment-là, dans le storyline de New Phyrexia et de Scars of Mirrodin, elle est sur Dominaria. Fait qu'Elspeth Tyrell, qui était la première carte de Elspeth. Non, elle avait une carte dans Alara, pardon. Mais bon, c'était comme sa deuxième apparition. Elle va se teamer avec Venser. Venser de Sojourner, ça, j'en ai jamais parlé à Terrain Basique, mais il est juste important dans le contexte de Mirrodin. Venser, c'est un Planeswalker de Dominaria, originaire de Dominaria. Et sa gimmick à lui, c'est de rendre les choses blink puis imbloquables. Fait que c'était un Planeswalker bleu et blanc. Ce qu'il faisait notamment, c'était +2, tu exilais un permanent que tu contrôlais et tu le retournais sur Battlefield, ou tu rendais une créature imbloquable pour -1, ou tu avais un emblème que à chaque fois que tu casses un spell, tu exiles un permanent. La gimmick de Venser, c'est qu'il a étudié les Phyrexiens old school, les ruines des Phyrexiens sur Dominaria pour essayer de les comprendre. Parce que ce qu'il veut faire, c'est des portals.
Ouais.
Puis là, éventuellement, c'est qu'Elspeth, elle vient le voir, puis elle dit dude, fais pas ça, c'est con de faire ça. Puis Cut va venir le voir, puis il va dire je vais te montrer pourquoi faut pas que tu étudies les Phyrexiens. Fait qu'il l'amène sur Mirrodin, et ensemble, les trois vont combattre les Phyrexiens. Ils ont vite sorti une série de comic books. Je vais mettre le lien vers les comic books parce qu'ils sont disponibles sur Internet. Ils ont fait une série de trois comic books en 2011. Qui était ce storyline-là. Là. Les trois Planeswalkers vont sur Mirrodin. T'avais Gathering Force, Scared, puis Dark Discovery. Ils vont en fait avoir... C'est que l'autre Planeswalker dans le bloc, c'est Tezzeret. Tezzeret est envoyé par Nicole Bolas pour... Il est envoyé sur Mirrodin pour apprendre c'est quoi les Phyrexiens. Et on se rappelle, on a un peu de distance depuis, là, c'est que éventuellement, c'est que Tezzeret va faire comme «
Il est devenu chum avec avec la raca, il y en a ici.
Ouais. Fait que, tu sais, on voyait Tezzeret Gambit, là, le sorcery en mana phyrexien. Tu piges deux cartes et tu proliferates. Tout ce qu'on voit que Tezzeret espionne des phyrexiens. Donc, ça, c'est... Fait que t'es comme... Tu sais, si vous voulez... Je vais pas rentrer trop dans les détails, là, mais t'as le comic book qui est disponible. Vous cliquerez sur le lien dans la description du show. Ils sont quand même cool, là, je veux dire, c'est des courts comic books. Il y a quelques idées que j'ai trouvées quand même cool, notamment celui où le bout où il y a Tezzeret et Nicole Bolas sont très drôles. Ça vaut la peine, mais en gros, là, pour faire une histoire courte, c'est qu'à la fin, les gentils gagnent. Ils vont libérer Karn. Karn Liberated. Ça, c'est probablement une des cartes les plus fortes des 30 dernières années. C'est le Planeswalker le plus fort, ça, c'est sûr. Ça coûte 7 mana colorless. C'est pour ça que la plupart des decks d'Urzatron le jouent. T'as un Karn avec 6 de loyauté. Ton +4, tu exiles une carte d'un adversaire. Tu choisis pas la carte, là, il est forcé de l'exiler, mais ça monte son loyauté à 10. Son -3, tu exiles un permanent sur la table, ça peut être un land. Ou son -14, tu restartes la game, tu mets en exil toutes les cartes exilées par Karn Liberated, et tu mets ces cartes-là sur le battlefield, sous ton contrôle, dans la game que tu as restarté.
Karn y est en tabarnak, hein, faisait longtemps pas libéré son babassé. Ouais.
Fait que c'est Karn qui sort, tu sais, comme les héros viennent le libérer, là, c'est comme enfin je sors. Un petit détail, un petit spoiler important. Non, je pense que je vais vous le garder. Vous allez découvrir en lisant les comic books comment Karn se fait libérer. Ça implique le sacrifice d'un des trois Planeswalkers que j'ai parlé. Je vous laisse deviner c'est lequel.
Ben là, Venture, on l'a plus jamais revu après avec adieu, man.
Ben, c'est ça.
Non, non, Venser est dans le prochain set.
Il est dans le prochain set? Oui, il est dans le prochain set.
Elspeth est dans New Capena. Elle retourne chez eux dans un set plus tard. Picard, personne l'aime.
Elspeth, on la revoit dans Terros, en fait. Quand on la voit dans Terros, c'est qu'elle vient de se sauver de New Furection.
Ah, ok, ok, c'est ça, t'es allé régler des affaires.
Ouais. Donc, c'est pas mal ça. Ça, c'est le storyline. Il va rester des survivants sur New Phyrexia qui sont pas phyrexisés. C'est comme la résistance. Ils sont dans New Phyrexia, là, notamment les Oriok Survivor. Là, parce que c'est un cas. On s'en fout si la carte fait, là, mais si vous checkez le look, là, ils sont comme à moitié tout nus, là, puis ils ont des genres d'armes faites avec des bouts de bâton. Puis ils sont prêts à vendre chèrement leur peau. Ça dit, nous sommes les enfants de Mirodin. Nous allons réclamer. Une scrap à la fois, ce qui est à nous. Il reste. Les Phyrexiens, à la fin de ce bloc-là, ils ont contaminé toute la planète, mais il reste des poches de résistance. Notamment à cause de Urabask de Eden, qui est le prétor rouge. Lui, c'est le prétor, il représente la couleur rouge, fait que c'est comme le rebelle,
le chaos.
Le chaos, les émotions. Fait qu'il va comme se servir de ces résistants-là contre. Les autres Praetors, dans sa guerre contre les autres Praetors. Fait que c'est pour ça que ces cartes-là font beaucoup mention de cette espèce d'alliance qu'il fait avec les Miram. Comme le Priest of Urabrask, là, qui est quelqu'un sur Battlefield, ça fait 3 manos rouges. Ça dit, même sur la nouvelle Phyrexie, la mano rouge représente là, un glimmer d'individualisme, de passion et de liberté. Et sur la carte Urabrask de Eden dans le Flavor Text, ça dit, quand la résistance Miram sont arrivés dans sa tanière, hein, ils ont regardé Urabrask en tant que guide. Il a déclaré ce qui a surpris les autres. Laissez-les aller, hein. Touchez pas aux résistants, ils sont de mon bord, je les protège. Fait que Urabrask, c'est un peu le fucker dans le storyline. C'est pour ça qu'on s'attend que dans le prochain set, Urabrask et sa gang risquent d'être du bord du Gatewatch. Parce qu'on avait vu dans New Capena que Elspeth, notamment, avait été le chercher pour se faire donner un coup de main. Celui qui poque les cartes, c'est Tezzeret et le Planner Bridge. Hein. Tezzeret, Betrayer of Flesh. Qu'on a vu que, bon, tu sais, il a perdu Nicole Bolas dans War of the Spark, fait qu'il s'est trouvé un nouveau maître, Tezzeret. Il joue le jeu. Tu sais, comme dans Neon Kamigawa, il était comme un genre de servant de Jin Jitaxia. Mais on a de plus en plus d'indices que peut-être qu'il va essayer de plus comme de jouer les deux factions là, un contre l'autre, là, le Gatewatch contre les Phyrexiens, pour à la fin essayer d'être comme le Kingmaker. Parce qu'on sait que Tezzeret, c'est lui qui a amené Urabrask sur New Capena en utilisant le portal. Parce que je rappelle, les Phyrexiens n'ont pas d'armes, ils sont pas capables de planeswalker. Ce qu'ils utilisent, c'est le Planner Bridge volé par Tezzeret, en fait, sur Kaladesh. Jusqu'à temps que Tezzeret, en fait, c'était le gros plotline sur Kamigawa Neo Dynasty, c'est qu'ils ont phyrexisé Tamiyo, le Planeswalker. Premier Planeswalker phyrexien. Dans Dominaria United, ils ont fait la même chose avec Ajani. Et on nous a annoncé que peut-être sur 10 Planeswalkers, on a parlé la semaine passée, il y en a 5 qui vont se faire phyrexiser. Cependant, ce que je trouve vraiment cool, c'est que l'autre affaire qu'il a faite, c'est que Vorinclex, le Praetor vert, lui, sa job, c'était d'aller voler la sève de l'arbre de Caldane, qui est l'arbre là, qui reliait les 10
Planeswalkers. Ouais.
Il t'avait un des spoilers là, de Obi-Wan, c'était la carte de New Phyrexia, où ce qu'on voyait. Je vais la poster sur Facebook. Là, on voit chacune des sphères, chacune des couleurs, les 5 couleurs et les 5 soleils. On voit aussi les monolithes, là, les monuments que je vous parlais. Et on voit surtout les genres de grosses tentacules qui sont, je pense, des branches d'arbres. En fait, c'est que les Phyrexiens ont fait pousser leur propre version de l'arbre de Caldane, le World Tree, hein, que ça s'appelait dans Caldane, le World Tree. Et que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une version Phyrexienne qui va toucher chacun des autres plans. Fait que je pense que March of the Machine, qui est le set qui sort à l'avril, là, ouais. Ça va être une espèce de endgame à la Avenger. Là. Je pense qu'on va voir, ça va être un genre de War of the Spark, mais comme Phyrexien contre Gatewatch, puis ça va se passer sur tous les plans. Moi c'est vers ça que je pense qu'on s'en ligne.
Ah, je suis pas sûr que c'est ça. Là. Ils ont touché pas mal, puis tout le artwork qu'ils ont montré, c'est du monde de tous les plans qui se battent. Si on retourne un petit peu sur Tesseract, je pense que c'est important de mentionner que ça a été un fucker durant pas mal toutes les storylines jusqu'à récemment. Là, il y a celle de le sauver en disant qu'il n'avait pas le choix parce qu'il est en train de mourir tranquillement, pas vite, à cause du cossin qui permet de créer des portails pour les autres.
Planner Bridge?
Ouais, le Planner Bridge. Le engine qu'il y a à l'intérieur de lui. Hein.
Ouais.
Puis, fait que là, il y a il essaie de survivre du mieux qu'il peut. Là, c'est plus une question de est-ce que les écrivains vont nous le faire aimer?
Moi, je vais avoir une rédemption.
Ouais, je pense qu'il va avoir une tentative de rédemption. Là. Il y a déjà
Moi, je pense que Tesseract peut juste être un vilain.
Non, ben, il y a déjà. Non,
moi, je pense que Tesseract, il est en contact avec Nicole Beaulat, puis il est en contact avec les Phyrexiens, puis il est en contact avec tous les plus méchants. Fait que peut-être depuis le début, c'est lui qui manipule tout le monde à être méchant, puis qui va se révéler le Yawgmoth 2 là, qui contient la source de l'huile. Puis moi, je pense que ça va être le Phyrexien rouge qui va tout sauver tout le monde, parce qu'à la fin, il va dire ça n'a pas de bon sens. Là. Moi, je suis gentil depuis le début, je suis chaos, puis là, vous êtes en train de tout vouloir enlever le chaos pour rendre tout parfait. Fait, pis c'est pas de même, ça marche. Puis il va aller bouder dans sa chambre après avoir décidé d'arracher la tête à Tesseract. Tu vois.
Moi, je l'aime bien, le Prédateur Rouge. Il me fait penser à Keith Morris.
C'est qui ça?
Ah, c'est un chanteur punk.
Ok, on l'aurait pas vu.
Ah, c'est le premier chanteur de Black Flag, ça.
Ouais,
Circle Jerk.
Circle Jerk, puis Off.
Je vois pas à quoi il ressemble à ça, là, mais.
J'ai un vibe d'attitude. Keith Morris.
C'est vraiment, il y a une attitude de je me crisse de tout. Là, puis,
je me crisse de tout. C'est la personne que, ben justement, Circle Jerk est créé quand c'était tout du monde qui s'était fait kicker dehors de d'autres bands punk hardcore. Ouais. Puis ils ont fait comme, hey, on devrait jouer ensemble. Puis il y a juste ce vibe-là, de genre, si part un band de Prédateur Rouge ou Rabrasque, moi je paye pour aller le voir.
J'embarque moi aussi. Ben écoute, merci beaucoup Jason, c'est très intéressant. Il y avait beaucoup d'elfes au début, mais ça s'est tassé. Merci beaucoup aussi Jonathan, hein, pertinence, présence, très 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 gentil. On va en profiter aussi pour souhaiter un très joyeux temps des fêtes de Noël à tous les fans du podcast, à votre famille, à vos amis. C'est la première année longtemps qu'on va pouvoir aller fêter ça avec des gens sans faire le rebelle, le go, là. Fait que faites ça dans la sécurité et le reste. Puis, merci pour cette belle année. Un gros merci aussi à nos partenaires, hein, les personnes qui nous aident sur la page Facebook. Hein, là, on prend en particulier notre bon chum Zod, Jacques, tous les autres. Un gros merci aussi à Martin Godette qui s'occupe diligemment du montage. On a passé 200 épisodes cette année, si j'ai bien compris. Ça va quand même assez bien. Un gros merci aussi à Bone qui nous fait nos beats. Je dirais pas merci à Spotify, mais nos shows sont disponibles là-dessus. Messieurs, je vous laisse un mot de la fin de Noël avant d'aller vers autre chose.
Ben, écoutez du Circle Jerk, c'est bon.
Je dirais pas que c'est bon, mais écoutez du Circle Jerk. Je préfère Off, mais écoutez du Circle Jerk.
Fait que voilà, on termine Noël Punk, tout le monde là-dessus. Mon nom est Tommy Godette et je vous souhaite à tous et à toutes de passer un excellent temps des fêtes en étant le moins manascrou possible. I don't care, gonna fuck you anyways, don't care, your boyfriend's here anyways, don't care, you've got a champ on anyways, don't care, well you're gross anyway, I don't care. Anyways, don't care. You got a dark face anyways, I don't care. Well, you look like Greg anyways, I don't care. I don't care. Don't care. Well, you're gross anyways, don't care. Your boyfriend's here anyways, don't care. Well, your parents are here too, I don't care. Membre de la famille H2O Web Media.